Franchement, je pense que ça va durer plus que 15 minutes, mon message. On va commencer dans la prière. Notre Dieu, Seigneur, on veut te louer, notre Dieu, parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui prend soin de nous. Seigneur Dieu, tu es un Dieu qui veut nous sauver. Toi, tu es un Dieu qui veut nous changer. Tu veux faire en sorte, Seigneur, qu'on quitte notre esclavage, l'esclavage du péché, l'esclavage de la mort. Et Seigneur, tu as un plan, Seigneur, pour nous rendre semblables à Jésus ici, hommes, femmes et enfants. Et Seigneur, on veut te louer pour ça. Seigneur, que ta parole se fasse, que ça puisse s'étendre ici. Seigneur, fais en sorte qu'on n'endurcisse pas nos cœurs, qu'on ne regarde pas le cœur endurci. Aujourd'hui, Seigneur, ouvre nos oreilles pour vraiment bien saisir ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Et Seigneur, pose ta bénédiction sur ma langue, sur ma bouche, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Donc, on a déjà commencé à voir quel est le symbole de l'Alliance chrétienne et missionnaire, qui sont en fait des images de Christ. Lequel qu'on a vu à date, là, depuis le début de l'été, lequel qui a été touché? C'est une question, hein? J'attends des réponses. La croix, OK, qui veut dire de Christ qui? Christ qui sauve, c'est ça? Oui, OK, correct, OK. Je ne l'entendais pas bien pour ça. Okay. Est-ce qu'on en a vu un autre à date? Oui. Le Christ qui sanctifie. OK. La coupe ici. Celui-là, est-ce qu'on l'a vu? Pas encore, hein? Ça va être un message prochainement. Celui-là ici. Le pichet. Jésus qui guérit. OK, c'est notre sujet d'aujourd'hui. OK. Donc, ça, c'est. On change avec ça. OK. Donc, Jésus guérisseur, et en fait, c'est qu'on se trouve à voir quand même ici, Jésus qui se trouve à être, qui se trouve à avoir quand même plusieurs rôles qui ont été mis à l'avant là, par l'Alliance chrétienne et missionnaire. Donc, les quatre qu'on vient de parler. Puis, ça, ici, c'est Dieu qui agit, hein? C'est Jésus qui agit maintenant, aujourd'hui. Jésus qui est vivant et qui se trouve à être... à la fois notre sauveur, notre roi, notre guérisseur aujourd'hui. Puis c'est fait tout dans un contexte de sanctification, parce que le but de Dieu, là, c'est vraiment de nous rendre semblables à Christ, là, tel qu'on le voit ici. Ici, dans Éphésiens 4, versets 13 à 15, dans un contexte là, des dons d'enseignement dans l'Église qui servent à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions en tous égards à celui qui est le chef Christ, qui se trouve à être la tête de chacun de nous ici même, pour ceux qui sont enfants de Dieu. Puis aussi le but final, alors que maintenant, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, c'est pas terminé. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quand nous serons face à face avec Dieu, face à face avec Christ, c'est à ce moment-là que la perfection est arrivée dans notre vie, dans notre corps, dans notre âme aussi. Donc, Jésus guérisseur, le but qu'il soit notre guérisseur, comme on peut voir, comme on va voir tout à l'heure là, dans les différents exemples de guérison que Jésus se trouve à avoir opéré, c'est que nous servions à la louange de sa gloire. Aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est dans le principe en anglais, on appelle ça du « already but not yet ». Je pense qu'est-ce qu'il y en a qui a déjà entendu parler de ça ici? Cours de théologie, non? OK. Ce qui veut dire finalement du « déjà mais pas encore », c'est-à-dire que quand on reçoit Jésus comme sauveur, quand le Saint-Esprit vient faire sa place dans notre vie, déjà, il y a quelque chose qui est opéré, mais ce n'est pas terminé. Il y a toujours une partie là, qui continue à maturer là, dans nos vies jusqu'à temps qu'au moment qu'on est en face à face avec Christ, on est semblable à lui, pour toujours. Et ce que Jésus a commencé en nous, il va le rendre à maturité complète lorsque nous le verrons face à face. Donc, il y a eu une histoire assez triste au moment de la chute, mais avant la chute, l'être humain, à l'image de Dieu incorruptible, âme, corps et esprit, corps incorruptible, incorruptible, le sens premier du mot, en fait, du mot incorruptible, c'est qu'il n'est pas sujet à la pourriture, OK? Pas sujet à la mort, pas sujet à être transformé, à être dégradé. Donc, au moment où Adam et Ève se trouvaient dans le jardin, ils étaient nourris parfaitement dans le jardin. Il y avait un système immunitaire parfait. Les bactéries existaient déjà dans ce temps-là, hein, puis c'était nécessaire d'avoir des bactéries pour bien digérer. Donc, le corps était bien préparé pour empêcher l'évasion des bactéries dans le corps humain. C'est ce que j'imagine, là, OK? OK. Puis le système de réparation pouvait être parfait aussi à ce moment-là. S'il y avait des petites altérations dans le corps humain, mais ça se réparait bien, puis ça ne laissait pas de traces. C'est tout ce que j'imagine. Après la chute, au moment où il y a eu la désobéissance d'Adam et Ève, il y a eu un changement, peut-être ce qu'on pourrait appeler un changement cosmique dans la création. Il y a une malédiction sur la création même. Ce qui fait que quand Adam et Ève ont été sortis du jardin, c'était rendu un environnement qui était hostile. Donc, c'est la nourriture, premièrement, la première malédiction sur Adam, c'est que pour faire pousser la terre, c'était rendu vraiment ardu. C'était une nourriture plus difficile à obtenir puis de moins bonne qualité. Les espèces animales et végétales, il y en a qui devenaient dangereuses pour le corps humain. Avec la nature hostile, le soleil, les radiations, les cataclysmes, les saisons, ceux qui ont déménagé au Québec il y a quelques années, vous êtes rendu compte qu'en janvier puis en février, si vous n'ajoutez pas quelques vêtements, vous risquez de mourir de froid. Puis en plus des océans et rivières qui pouvaient être vraiment risqués là, pour la santé puis pour la vie aussi. Et donc tout est sujet à la mort et à la destruction partout. Partout dans l'univers. Donc, si on regarde la malédiction aussi sur le corps humain, donc on commence à avoir des failles dans le système immunitaire. Le système immunitaire n'est pas parfait pour prévenir les infections, pour prévenir d'autres maladies. Il y a des failles dans le processus de réparation. Donc, puis un exemple ici, c'est le cancer. Les mutations qui peuvent s'opérer dans le corps humain. À ce moment-là, s'il y a des cellules qui ne sont pas éliminées ou qui ne sont pas réparées, à ce moment-là, il y a du cancer qui peut commencer. En plus des maladies génétiques, il y a aussi le processus de vieillissement qu'on ne peut pas vraiment arrêter, qui fait partie de toute la vie là, dans la création. Et le processus de mort cellulaire aussi. Ici, un petit exemple. Petite fille ici. Son nom de famille, c'est Miller. Elle souffre de xéroderma pigmentosum. Et écoutez, ça ici, cette maladie-là, en fait, c'est une maladie génétique. Une petite enzyme de rien du tout là, qui manque chez elle, qui aide à réparer l'ADN quand il se trouve à y avoir une attaque là, par les ultraviolets. Elle n'est pas capable de réparer ces cellules au niveau de la peau. Ici, quel âge qu'on y donne à peu près? 3 ans peut-être? Quelque chose comme ça, hein? Elle a déjà un cancer, elle. Elle a déjà eu un cancer de la peau qui a été découvert chez elle. C'est comme ça qu'on a découvert, elle a été chanceuse, elle, par rapport à d'autres. On a découvert chez elle qu'elle avait un cancer de la peau puis qu'elle avait aussi le déficit enzymatique. Ce qui fait qu'ici, elle n'est pas habillée normale, hein? Oups. Ici, il faut qu'elle soit complètement protégée contre le soleil. Puis son espérance de vie n'est pas très, très bonne. Hein? La plupart de ceux, des enfants là, qui sont atteints de ce déficit enzymatique-là, ils vont mourir autour de 20 ans d'un cancer de la peau à un moment donné. S'ils sont chanceux, super bien protégés pendant toute leur vie, ils peuvent se rendre à 40 ans. Et ça, c'est juste un petit exemple là, de ce qui s'est passé là, au moment de la chute là, chez certaines personnes ici. On vient de parler de la malédiction sur le corps humain. La malédiction morale aussi, les effets de ça, bon, on parle ici de mauvaise hygiène de vie parce que notre jugement a été altéré. Puis qu'on a tendance souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont pas respecter le cycle du sommeil, dont certains chefs d'entreprise qui se trouvent à exiger qu'il y ait des personnes qui travaillent la nuit. Puis on sait que ceux qui travaillent la nuit, pendant des années, leur espérance de vie baisse aussi. Ils sont malades plus rapidement. Et pourtant, c'est une exigence. Puis souvent, ces gens-là, ils n'ont pas bien le choix de continuer là-dedans. Mais je ne pense pas que c'est prêt d'être changé, cette condition-là. C'est un effet du péché. Puis de vouloir exiger une production augmentée de la part des travailleurs pour pouvoir gagner plus d'argent personnellement. L'abus ou le manque de nourriture qui se trouve aussi à affecter la santé chez les gens. Donc, l'abus, on connaît plus ça ici que le manque de nourriture, mais le manque de nourriture, ça existe ici aussi, puis ce qui fait que ça va affecter aussi comment que le corps humain va fonctionner. L'abus de substances toxiques, rien que je crée ici au niveau de l'alcool puis des drogues, puis au niveau de l'immoralité sexuelle, qui va aussi entraîner des problèmes de santé assez majeurs. Pour continuer au niveau de la malédiction morale, donc les erreurs de jugement, des accidents bêtes. Est-ce que vous connaissez des accidents intelligents? Moi, j'en connais pas vraiment. Comme par exemple, moi, je vois souvent quand même là, comme médecin là, des personnes, surtout des femmes âgées qui vivent seules à la maison, qui à un moment donné veulent aller chercher quelque chose en haut en haut de l'étagère. C'est qu'au lieu d'avoir fait de la prévention puis de ramener toutes les choses au niveau des yeux, non, ça n'a pas été fait. Mais elle avait besoin de quelque chose, absolument. Prends un petit banc, se lève la tête, s'étire un petit peu, commence à être étourdi, tombe à terre, fracture de hanche. C'est quelque chose que je vois quand même assez régulièrement. Aussi, les mauvaises décisions financières qui font en sorte que ça va aussi affecter beaucoup comment notre vie va être menée puis au niveau de la santé aussi. Tout ça, ce sont des choses qui vont contribuer à ce que l'espérance de vie et la santé vont être affectée, puis l'occurrence de maladies. Ici, mauvaise gestion financière. Je devrais rajouter ici qu'il y a quand même passablement de gens qui sont victimes de pauvreté, qui n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas tellement de contrôle là, sur les choix qu'ils peuvent faire à cause du manque de revenus. Et qui vont être aussi affectés par cette situation-là. Aussi, j'invente rien, vous le savez déjà. Pour continuer avec la malédiction morale, la haine de son prochain, violence conjugale, violence familiale, violence sociale et politique, et toutes les conséquences graves que cela encourt sur les blessures, puis les handicaps physiques, sur les blessures psychologiques, les deuils prématurés. Le sentiment d'injustice qui persiste après ces événements-là. Mais Jésus, lui, est guérisseur. Et puis, il peut guérir, en fait, beaucoup de choses. Hein? Okay. Si on regarde dans Luc 4, 18-19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça a été accompli, c'est quelque chose qui a été pris du livre d'Ésaïe, qui était une prophétie qui avait été écrite 700 ans avant Jésus. Jésus se trouve à avoir accompli cette prophétie-là. Dans Matthieu 4, 23, au début de son ministère, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ésaïe 53, 4 et 5. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré puni de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, lui, quand il est venu sur terre, il est venu guérir plus que des maladies. Hein? Il est venu guérir toute la personne entière. Ça implique beaucoup plus que la guérison des maladies. Il s'agit d'une guérison qui comprend le cœur de la personne, le corps puis la misère morale. Il s'agit d'une guérison holistique. Holistique, on voit ça pas mal dans les médecines alternatives. Hein? C'est un nom qui revient quand même régulièrement. Mais c'est juste Jésus qui se trouve à le faire vraiment d'une façon parfaite ici. Ça implique tous les aspects de la personne humaine. On a vu au niveau de la... Quand Jésus faisait ses miracles, il y avait quand même des circonstances qui faisaient qu'il le faisait. Il fallait rencontrer la foi des gens, hein. Il y a quelques endroits où que Jésus ne pouvait pas guérir. Quand il est allé dans son village natal, par exemple, à Nazareth, je ne l'ai pas écrit ici là-dessus, là. Mais où est-ce que les gens ils disaient, est-ce que c'est pas le fils de Marie, c'est pas le fils de Joseph? Donc, il l'avait vu grandir, puis il ne reconnaissait pas que l'Esprit de Dieu, que lui, il pouvait être le Messie. Donc, il n'y a pas de miracle qu'il a pu faire vraiment dans son village natal. Mais partout ailleurs en Galilée, il rencontrait la foi de façon régulière. Puis, donc ici, la foi, c'était quelque chose d'important. Est-ce qu'on avait besoin d'une grosse foi? On va voir ça tout à l'heure. Après la résurrection de Jésus, ça a été ordonné que Jésus puisse donner le pouvoir à ses disciples de continuer à faire des guérisons, des miracles. On voit ça dans Marc chapitre 16. Donc, le premier miracle, la première guérison qui est arrivée après la résurrection, ça se trouve dans Acte 4, la guérison du boiteux par Pierre. Puis qu'est-ce que le boiteux a fait c'est Jésus qui l'a guéri, ou c'est pas Pierre qui l'a guéri. Mais le boiteux, quand il était guéri, il dansait. Il louait Dieu. Okay, ça, c'est quand même quelque chose d'important qu'il faut retenir ici. Acte 5, là, il y avait beaucoup plus de miracles qui étaient opérés de la part des disciples des apôtres à Jérusalem. Puis ça l'avait contribué à apporter un grand nombre de personnes au Seigneur, 5000 personnes supplémentaires à ce moment-là. Acte 8, guérison par Philippe, le diacre. Donc, le don de guérison n'était pas juste réservé aux apôtres. Il y avait Philippe, un diacre, qui avait permis d'opérer des miracles. Toujours Jésus puis l'Esprit de Dieu qui opérait à travers lui. Ananias, qui était aussi un autre disciple de Jésus à Antioche, qui avait guéri les yeux de Paul tout de suite après sa conversion. Dans Acte 28, des guérisons opérées à travers Paul sur l'île de Malte, juste avant d'aller à Rome. Puis on parle dans 1 Corinthiens 12, verset 9, on parle du don de guérison qui faisait partie des différents dons de l'Esprit qui se trouvaient dans l'église de Corinthe. Est-ce que tous sont guéris? Est-ce que le don de guérison ou... Est-ce que c'est vraiment là, est-ce que c'est juste la norme? C'est la question qui est posée ici. Là. Ici, dans 1 Timothée 5, 23, l'apôtre Paul écrit à Timothée, « Fais usage un peu de vin à cause de ton estomac et tes fréquentes indispositions. » C'est quand même drôle qu'il n'ait pas dit ici, « Ben écoute, va voir un de tes anciens et demande que les mains soient imposées sur toi, puis tu vas être guéri. » Mais ce n'est pas ça ici, c'est plutôt un autre conseil de type un petit peu plus humaniste là, qui se trouve à être donné ici. 2 Corinthiens 12, 9, l'histoire de Paul avec l'épine dans la chair. L'épine, est-ce qu'elle a été enlevée? On ne sait pas exactement c'est quoi l'épine, mais on parle ici de quelque chose que Paul trouvait que ça nuisait dans sa vie. Ça aurait pu être beaucoup, beaucoup de choses. Mais le Seigneur répond, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc, on ne peut pas vraiment s'attendre à ce que est-ce qu'on soit parfait déjà dès maintenant pour pouvoir annoncer l'Évangile, pour pouvoir dire pour que les dons de l'Esprit et que le Saint-Esprit agisse dans notre vie pour bénir ceux qui nous entourent. Et aujourd'hui, certains croient que Jésus nous rend complètement guéris avec le salut au moment de la conversion. Il y en a qui vont utiliser l'argument que le verbe sozo, qui est un verbe grec, qui veut dire sauver, veut dire aussi guérir. Ce mot-là va être utilisé de façon interchangeable dans le Nouveau Testament pour dire sauver puis pour dire guérir. Donc, il y en a qui vont dire, c'est le même verbe, donc c'est la même chose. Quand on est sauvé, on est guéri. Donc, on ne devrait plus avoir de langueur, on ne devrait plus avoir d'infirmité, puis rien de ça. Mais ça, c'est du grec, ça, OK? Ici, quand on parle du grec, soit qu'on dise le mot sauvé, soit qu'on dise le mot guéri. Puis, je veux dire, c'est le contexte qui va nous dire c'est quoi le sens. Puis, on ne devrait pas mêler ces choses-là. C'est de la mauvaise herméneutique. Marc 16, 18, que j'ai mentionné tout à l'heure. Je pense que je vais vous le lire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, il semble ici que c'était... il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est quelque chose qui est automatique, que si vraiment on a la foi, on va être capable de pouvoir opérer les miracles, les guérisons sur demande. Un des problèmes avec ça, c'est que si on évacue la souffrance dès le départ au moment qu'elle arrive, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va nous manquer dans notre marche avec Dieu. C'est vraiment nécessaire que si on se rappelle, par exemple, Jésus même, qui avait appris l'obéissance par les souffrances qu'il avait subies, nous, on n'est pas meilleur que notre maître, hein? En termes là, de ce qui est d'être des disciples. La souffrance, Dieu s'en sert dans notre vie aussi. Il faut apprendre la patience. On apprend l'obéissance, nous autres aussi, dans les souffrances qu'on vit. Puis, à travers la souffrance qui se trouve avec notre test, Dieu nous transforme pour être de plus en plus à l'image de Christ aussi. Si on évacue la souffrance, si on ne la vit plus ou on la vit à peu près plus, la souffrance, comment est-ce qu'on peut consoler ceux qui sont affligés? On va être insensible à ça. On va le dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras guéri. Puis ça finit là. Puis si tu n'es pas guéri, ben tant pis. L'autre extrême ici, ceux qui croient que le don de guérison n'existe plus. Donc, il y a quand même certaines dénominations chrétiennes qui disent là, que le don de guérison, c'était seulement dans le temps des apôtres que ça existait. Les signes, le don des miracles, le don de guérison. Puis, ils utilisent un passage pour supporter leur point de vue, qui se trouve dans 1 Corinthiens 13, 10. Quand ce qui est parfait apparaîtra, ils disent ici, ce qui est parfait ici, c'est la Bible. La Bible, quand elle va être finie d'être écrite, bien là, on a tout là-dedans. Puis les dons des miracles à ce moment-là qui servaient pour démontrer la puissance de Dieu, on n'en aurait plus besoin parce que là, on a la parole de Dieu qui se trouve à être l'épée tranchante à deux tranchants qui traverse les cœurs et qui permet la conversion chez les gens. Donc, les signes deviennent superflus. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire ici. Quand ce qui est parfait apparaîtra, c'est quand nous verrons Dieu face à face. C'est vraiment le contexte de ça. Encore là, c'est de la mauvaise herméneutique si vous entendez ça. Okay? En fait, il n'y a rien qui laisse supposer, quand on lit le Nouveau Testament, que les dons de l'Esprit sont disparus ou que c'était une chose du passé. Il n'y a rien qui laisse supposer ça. On ne peut pas servir des Écritures pour dire que c'est terminé. Mais Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen? Amen. Okay. Toujours dans un processus pour ressembler de plus en plus à Jésus, en lien avec la sanctification, puis pour glorifier Dieu dans sa vie, comme le boiteux avait glorifié Dieu dans sa guérison. Nous aussi, on peut voir la guérison de Jésus dans nos vies, et ça nous permet de glorifier Dieu aussi, puis nous permettre de continuer à annoncer le salut en Jésus-Christ. Donc, il y a une guérison morale qui est opérée par Jésus dans nos vies, par le Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Donc, je vais lire le passage. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Est-ce que vous avez apporté vos Bibles? Personne n'a apporté les Bibles ici? Non? OK. Hector, tu serais bien pour nous lire ça? Merci. Donc, ici, on parle de ce que le Saint-Esprit opère dans la vie du croyant. Est-ce que l'apôtre Paul ici demande? C'est-à-dire qu'on continue quand même à vivre avec la partie du vieil homme qui veut rester attaché à nous. Nous, notre travail à tous les jours, c'est d'être dépouillé du vieil homme puis de revêtir l'homme nouveau, tel que Christ se trouve à être lui-même. Puis là, on a quelques exemples ensuite. L'exemple du mensonge, c'est pourquoi renoncer au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, je vais vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on ment? Oui, Claire? Vas-y. OK, right? OK. Très bien, OK. Les femmes maintenant? C'est pas écrit pour les femmes, OK, correct. OK. Donc, les hommes, ils mentent pour se protéger, pour bien paraître, hein? OK. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Levez pas vos mains, c'est correct, OK? OK. Moi, je me reconnais, moi, là-dedans, quand même. Hein? OK. Pour les femmes, est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus? OK, c'est pas nécessaire, hein? OK. Ici, le vieil homme là, qui cherche à bien paraître, le vieil homme qui veut prendre la place de Dieu, hein? Est-ce qu'on est parfait? Non, on est encore faillible. Puis encore, il y a une imperfection qui fait partie de l'être humain, hein? C'est qui est parfait, dans le fond? Jésus, c'est Dieu qui est parfait. OK? Puis quand on ment ici, on se protège, on veut protéger notre image d'imperfection. En fait, on prend la place de Dieu. Mais Dieu, Jésus veut nous guérir de ça aussi. Il veut nous guérir d'utiliser le mensonge comme un mécanisme de défense psychologique aussi. Défense psychologique, défense spirituelle aussi, pour pas qu'on aille à juste paraître bien. On veut être vrais les uns avec les autres. C'est ça que Dieu nous demande de faire. L'exemple de la colère maintenant. Si vous vous mettez en colère, Ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ici, on parle d'une colère. Bon, c'est possible d'être en colère puis de ne pas pécher. Avez-vous des exemples de colère où est-ce qu'on pêche? Non? Vous êtes correct? Ah, Claire, vas-y, écoute, on a de l'expérience. OK. OK. Correct. OK. OK. T'es un bon à rien, mettons. OK. Correct. OK. Tu feras jamais rien de bon dans la vie. OK. Correct. Tout le temps en retard. OK. Correct. OK. OK. Avez-vous d'autres exemples? Oui. Oui. OK. Puis cette violence-là, qu'est-ce que ça dit de nous à ce moment-là? Oui, oui, oui. Non, c'est ça. Ça, c'est encore le vieil homme, la vieille femme qui agit ici. Hein? OK. Qu'est-ce que ça dit de nous, cette colère-là? Tu peux y aller. OK. Donc, ici, on a besoin d'aide de la part de Dieu. On a besoin de la guérison ici pour que notre colère soit bien dosée, puis bien, pour que ce soit positif, finalement, que ça serve à quelque chose de bien. Hein? OK. Moi, je pourrais peut-être rajouter que la colère, des fois, quand on se met en colère contre un enfant, par exemple, c'est peut-être parce qu'on ne veut pas que l'enfant développe des mauvaises habitudes qui vont se refléter sur nous comme parents. À ce moment-là, la colère, c'est pour nous protéger d'être un mauvais parent. Mais encore là, ça devient à ce moment-là aussi notre image personnelle qui compte, plus que le bien de l'enfant, de l'empêcher de faire en sorte de bien grandir. Ça pourrait être ça. Dieu veut nous guérir de ça aussi. Il y a d'autres exemples ici dans l'exemple du vol. L'exemple de la langue, l'exemple de mauvaise attitude. Je pense qu'ici, je vais le lire ici. Au verset 31, « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Calomnie, ça pourrait être médisance aussi, quand on aime parler en mal de quelque chose de quelqu'un a fait de mal aussi. C'est la vérité, ça je veux dire. C'est quelqu'un a fait quelque chose de mal, puis on dit, ah, cette personne-là, tu vois, tu sais qu'est-ce qu'elle a fait, puis c'est d'en parler ensemble. Ça ici, c'est quelque chose qui est défendu aussi dans les... qu'est-ce que ça démontre en fait? C'est qu'on cherche à se remonter nous-mêmes en parlant du mal des autres. À ce moment-là, on ne se sert pas de ce que Dieu nous donne dans notre nature, dans notre nature nouvelle, dans notre assurance que nous, on est sauvés. On est sauvés par Dieu, on est enfant de Dieu, on est correct. On n'a plus besoin de parler en mal des gens, même si c'est vrai, pour se remonter. C'est fini. Dieu veut nous guérir de ça aussi. D'autres types de guérison plutôt au niveau psychique, au niveau de la maladie mentale, de la dépendance à des substances, de deuil non résolu, puis des victimes d'humiliation. Je vais peut-être me concentrer sur les dépendances à des substances. Avez-vous entendu parler de gens qui étaient alcooliques, qui au moment où qui reçoivent le Seigneur, c'est fini, ils ne boivent plus d'alcool. Avez-vous entendu parler de ça? Ça arrive assez souvent. Il y a quand même beaucoup de témoignages comme ça. Ceux qui arrêtent de fumer en devenant chrétien. Oui, ça arrive. Ça arrive pas mal assez souvent. OK. Ceux qui prenaient des drogues, cocaïne, marijuana, en devenant chrétiens? Oui. Est-ce que tous les anciens pêcheurs qui prenaient des substances en devenant chrétiens, est-ce qu'ils sont guéris automatiquement de ça, toute la gang? Non. Non. C'est pas tout guéri. Le cheminement d'une personne n'est pas la même d'une personne à l'autre. L'autre personne va probablement avoir à se couper le bras pour arrêter de boire. Ici, l'image, là, c'est de si ton bras ou si ton œil t'amenait à pêcher, coupe-le. Coupe-le pour pas entrer, sinon tu vas entrer entier dans en enfer. Mais ici, pour eux, ça va être différent à ce moment-là. Les décisions qu'ils devront prendre pour pouvoir y arriver, ils vont probablement avoir besoin d'aide, d'aller dans des centres de traitement. Puis avec l'aide de Dieu, là, ça va être correct. Pour ceux qui ont été victimes d'humiliation, je vais faire une petite annonce. Vous pouvez toujours participer à la retraite de Renversant les forteresses. Et vous allez trouver des bonnes réponses là. Il y a aussi d'autres guérisons par rapport à des déceptions avec Dieu. C'est souvent, on va avoir des attentes envers Dieu, des attentes qui ne sont pas remplies, il nous arrive un malheur, puis on est fâché contre Dieu. Mais Dieu veut nous guérir de ça aussi. On a un processus pour la guérison. Qui se trouve à être écrit dans l'Épître de Jacques. Jacques, chapitre 5, verset 14. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient sur lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. » La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Donc, si on voit ici, d'abord, c'est celui qui est malade qui doit faire le premier pas. Dans le temps de Jésus, est-ce que c'était la même chose? La plupart du temps, oui. La plupart du temps, c'était le malade qui devait se rendre auprès de Jésus pour être guéri. Puis c'était la foi qui faisait que le malade pouvait faire le trajet pour se rendre jusqu'à Jésus. D'autres fois, le malade, il ne peut pas. Le paralytique sur le bord de la piscine qui n'est pas capable de descendre lui-même dans la piscine pour être guéri grâce à l'ange qui faisait bouger l'eau. Jésus est allé le voir, puis il a demandé au paralytique, « Veux-tu être guéri? » C'est une question bizarre, hein? Mais celui qui veut être guéri, il faut qu'il le demande. Il faut qu'il dise exactement qu'est-ce qu'il veut aussi. Donc, quand tu vas voir les anciens pour être guéri, il faut faire le premier pas puis dire de quoi qu'on veut être guéri. Donc, on rencontre les anciens. Prière. Onction d'huile. Onction d'huile, l'onction, ça servait dans l'Ancien Testament. Pour indiquer que la personne est mise à part. Hein, quand on faisait l'onction du grand prêtre, le nouveau sacrificateur, le nouveau roi qui était oint d'huile, c'était mis à part pour cette fonction-là. Puis ici, c'est la même chose. C'est pas l'huile qui guérit quoi que ce soit. Hein. C'est que c'est la personne qui a demandé la guérison est mise à part pour être guérie pour quelque chose que Dieu veut établir avec cette personne-là. La prière de foi sauvera le malade. Avez-vous déjà entendu souvent ça ici? Si tu n'as pas été guéri, c'est parce que tu as manqué de foi. Est-ce que vous avez entendu ça souvent? Oui, hein? Ça c'est. Oui, hein? OK. Tu t'en vas pour être guéri. Ben, je veux dire, pas toi, peut-être pas nécessairement, mais on a entendu des gens qui ont voulu aller dans le processus de guérison. Puis qui sont préparés, arrive le temps pour être guéris. Ils ne sont pas guéris. Ils ne sont pas guéris. Ça fait qu'habituellement, on les accuse de manquer de foi. Est-ce qu'on a besoin d'une grande foi pour être guéri? Non? Alliancienne, toi, tu es sûr? Non, hein? OK. Est-ce qu'il y a des exemples dans le Nouveau Testament où est-ce que ça existe? Une petite foi, puis la personne est guérie? OK. Oui, il y en a une, c'est dans, dans l'Évangile de Marc. Où est-ce que c'est déjà? Marc au chapitre 9. Un homme qui arrive près de Jésus, à partir du verset 17. Un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené près de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Donc ici, le père a confessé son, mettons, son manque de foi. C'est juste une petite foi qu'il se trouvait à avoir. Puis Jésus l'a exaucé. S'il vous plaît, là, accusez pas les gens de manquer de foi, surtout quand ils en ont en plus, là. Donc c'est des fois, là, si la personne n'est pas guérie, c'est juste pas le timing de Dieu, hein. Dieu, il est en contrôle de tout ça. Ce n'est pas parce qu'on a la foi que ça commande Dieu de guérir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu peut nous communiquer, de dire, OK, il peut nous donner la conviction, oui, c'est temps de guérir cette personne-là. Vas-y, puis en même temps, il va essayer de convaincre celui qui a besoin d'être guéri que sa guérison s'en vient. La parole de foi va arriver dans ces circonstances-là. Au niveau à ce moment-là, on pourrait s'attendre à ce moment-là qu'une guérison se fasse. Mais c'est au pouvoir de Dieu, c'est pas au pouvoir des hommes ici. On va juste prendre quelques minutes avant de reprendre la louange. Si on peut juste se recueillir, puis s'il y a des gens qui pourraient rendre grâce à Dieu pour des choses pour lesquels ils ont été guéris grâce à l'intervention de Dieu. Que ce soit une maladie physique, que ce soit une mauvaise attitude, que ce soit quel que soit, ou juste rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est, on va passer quelques minutes là, maintenant, la tête baissée.